Le XXe siècle fut probablement le plus cruel de l'histoire de l'humanité. Les guerres et les exterminations systématiques ont dû faire proche de 100 millions de morts, sans compter les autres millions de réfugiés morts-vivants parqués dans des camps de misère. Même le super-despote Nabucodonosor en aurait été consterné. Lui au moins, il avait donné aux populations exilées la possibilité de s'établir sur place et de prospérer. C'est ce qui arriva aux Israélites. Ils sont déportés à Babylone au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Mais 70 ans plus tard, alors qu'ils se trouvent sous la coupe des Perses, un décret de l'empereur Cyrus les autorise à rentrer chez eux. Seulement, ils sont tellement confortables dans leur nouvelle patrie que très peu d'entre eux veulent retourner dans le pays dévasté de leurs ancêtres pour le reconstruire. Certains pourtant font le voyage, et le psaume 85 semble être une prière des premiers colons juifs de retour en Palestine. Le psalmiste évoque tout d'abord les bienfaits passés de Dieu en faveur de son peuple, puis demande une nouvelle intervention de sa part. Ensuite, il exprime sa confiance en lui et son espérance en un meilleur avenir. Je commence à lire le psaume 85. Au chef des cœurs, psaume des Cohérites. Éternel, tu as montré ta faveur à ton pays. Tu as ramené ceux de Jacob qui étaient en captivité. Psaume 85, les versets 1 et 2. Les Juifs sont aujourd'hui en Israël. Cependant, un jour, ils en seront à nouveau chassés. Mais alors, ce sera Dieu lui-même qui les ramènera dans le pays qu'il a juré à donner à Abraham et à ses descendants. Alors, ce psaume sera vraiment d'actualité. Je continue. Tu as pardonné les fautes de ton peuple, tu as couvert leurs péchés. Pause. Psaume 85, verset 3. Les Israélites qui sont retournés dans leur pays avaient le cœur tendre à l'égard de l'Éternel. Mais cette bonne disposition fut de très courte durée. D'après les livres historiques, Néhémie, Esdras, et les écrits des prophètes Agée, Zacharie, Malachie, la plupart du temps, les Juifs étaient indifférents aux rebelles à Dieu. Cependant, les hommes pieux qui souffrent sont fortifiés à la pensée des compassions de Dieu dans le passé et de la gloire d'Israël à venir. Je continue. Tu as retiré toute ta colère. Tu as réfréné ton indignation. Psaume 85, verset 4. Le pire pour Israël et le monde est encore à venir. Ce sera la grande tribulation avec l'Antichrist aux commandes. Satan pourra alors donner libre cours à sa haine et le mal ne sera plus contenu par le Saint-Esprit comme il l'est encore aujourd'hui. Puis, aura lieu le jugement de Dieu tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Ensuite, Jésus-Christ reviendra sur terre pour y établir une paix durable. Mais avant ces événements, les chrétiens authentiques seront enlevés dans les cieux. Ils échapperont à la grande colère de Dieu parce que leurs fautes ont déjà été jugées sur la croix en la personne de Jésus-Christ. Cependant, chaque croyant doit quand même passer devant le tribunal du Christ, 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 13 à 15, pour que ses œuvres sur terre soient évaluées. Je continue le psaume. Ô fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, mets un terme à ta colère, vas-tu éternellement être irrité contre nous? Ton ressentiment durera-t-il d'âge en âge? Psaume 85, les versets 5 et 6. Au début, le psalmiste a dit « Tu nous as ramenés ». Pourtant ici, il semble que la situation des Israélites est bien précaire et qu'il vient une période particulièrement troublée parce que Dieu est toujours fâché et laisse encore sa colère peser sur le pays. On connaît les difficultés que les Israélites ont dû endurer pour relever le temple et les murailles de Jérusalem. Par ailleurs, leurs ennemis réussissent également à freiner l'avenue d'une nouvelle caravane de colons. Je continue. Ne voudrais-tu pas nous rendre à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Fais-nous contempler ton amour, ô Éternel, accorde-nous ton salut. Psaume 85, les versets 7 et 8. Les relations entre l'Éternel et les Israélites ne sont bonnes que quand ces derniers se réjouissent en lui, ce qui est d'ailleurs l'un des objectifs de toutes les fêtes juives. Je continue. Je vais écouter ce que tu dis, Dieu. L'Éternel, c'est de prospérité, de fidélité qu'il parle à son peuple et à ses bien-aimés, mais qu'il ne retourne pas à leur folie. Psaume 85, verset 9. Les malheurs d'Israël, ainsi que de tous les hommes, c'est leur folie à se rebeller contre le Créateur. Heureusement, dans l'éternité à venir, cette possibilité n'existera plus. Je continue. Oui, il va bientôt sauver ceux qui le révèrent, afin que sa gloire puisse demeurer bientôt dans notre pays. Psaume 85, verset 10. Le peuple jouira à nouveau du salut, une fois que sera reconstruit le sanctuaire où Dieu réside. Je continue. La bonté et la vérité se sont rencontrées, et la justice et la paix se sont donné l'accolade. La vérité germera du sein de la terre, la justice descendra des hauteurs célestes. Psaume 85, les versets 11 et 12. Les attributs de Dieu sont personnifiés. C'est comme s'il habitait au milieu du peuple et, par leur présence, attirait la bénédiction d'en haut. Parce que l'être humain est coupable en vérité, il se tient à l'écart de la bonté de Dieu et c'est le mal qui règne. La justice divine exige alors qu'il soit jugé. Voilà pourquoi il ne connaît pas la paix. Mais une fois le pardon accordé, l'harmonie est rétablie. La bonté de Dieu est accordée sans réserve, puisque l'homme pardonné n'est véritablement plus coupable à ses yeux. Tout cela s'accomplit aujourd'hui par la foi en Christ Jésus. Je finis le psaume 85. L'Éternel lui-même nous donnera le bonheur, et notre pays produira ses fruits. La justice le précédera. Elle prend garde au chemin de ses pas pour y marcher après lui. Psaume 85, les versets 13 et 14. La présence de Dieu se manifeste par le règne de la justice. Elle précède l'Éternel et le suit. Le psalmiste envisage le règne futur de la justice personnifiée dans le Messie Jésus-Christ. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre écrit « Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » De Pierre chapitre 3, verset 13. La terre sera alors sujette aux bénédictions divines, comme l'était le cas au paradis terrestre. Ce n'est pas un conte de fées, car cette espérance est fondée sur ce que Dieu a promis et décidé. Nous arrivons au psaume 86, qui est une prière liturgique d'appel au secours, qui exprime les besoins permanents et universels du peuple de Dieu de tous les temps. Il a sans doute été composé par les fils de Corée, ce qui explique sa place au milieu des cantiques qui leur sont attribués. Le nom de David, mis en tête de ce psaume, est dû aux citations de psaumes plus anciens de David qui s'y trouvent en grand nombre. Cela dit, le psaume 86 possède quand même son caractère propre. Ainsi, au lieu d'utiliser pour Dieu les noms Elohim, qui évoque le Créateur, et Yahvé, qui décrit le Dieu de l'Alliance et du Salut, ici le psalmiste emploie sept fois Adonai, qui veut dire Seigneur. Ce nom est aussi celui qui, dans la lecture de l'Ancien Testament, est substitué à Yahvé, que les Juifs pieux n'osent pas prononcer parce qu'il était trop sacré à leurs yeux. Dans le psaume 86, l'espérance messianique occupe la place centrale. Mais ce n'est pas Jésus-Christ qui parle. Par exemple, la prière « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu as tracées, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. » pourrait être dite par un croyant, mais pas par Jésus-Christ. Quelqu'un a dit « Le temps, souvent, nous le gaspillons en futilité, ce qui ralentit d'autant notre marche avec Dieu. Même si nous sommes sur le chemin du ciel, nous nous arrêtons en route pour chasser les papillons. Combien de croyants qui ne commettent pas de fautes grossières, mais qui se débattent dans des soucis inutiles, des tâches qu'ils imaginent nécessaires, mais qui ne sont que des diversions par rapport à ce qui compte vraiment dans la vie. Je ne sais pas vous, mais moi, je tue souvent le temps en brassant beaucoup d'air et je stresse pour un oui ou pour un non. Jean Calvin a dit « Le cœur de l'homme est troublé, distrait et comme désuni jusqu'à ce que Dieu les recueillit à soi et qu'il le retienne pour lui obéir. » Tous ceux qui se disent chrétiens, surtout s'ils sont attirés par l'éclat et les jouissances de ce monde, ont besoin de prier comme suit. Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu as tracées. Accorde-moi un cœur qui te réverse en partage. Réunis toutes mes pensées et mes aspirations en une seule, qui soit de te vénérer. À cette requête, Dieu répondra par « Je te rendrai intelligent. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai. Mon œil sera sur toi. » Psaume 32, verset 8. Je commence maintenant à lire le psaume 86. Prière de David. Tends vers moi ton oreille, Éternel. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Viens protéger ma vie, car je suis ton bien-aimé. Et toi, tu es mon Dieu. Je suis ton serviteur qui se confie en toi. Viens me sauver, ô Seigneur. Fais-moi grâce. Je crie vers toi sans cesse. Réjouis ton serviteur, car c'est vers toi, Seigneur, que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, et prompt à pardonner, riche en amour pour tous ceux qui t'invoquent. Écoute ma prière, ô Éternel, sois attentif à mes supplications. Au jour de ma détresse, c'est vers toi que je crie, car tu m'exauceras. Psaume 86, les versets 1 à 7. Le psalmiste se dit pauvre et malheureux, ce qui dans les Écritures veut souvent dire dépendant de Dieu. Il espère être exaucé parce qu'il se fonde sur la nature de Dieu et il est son bien-aimé. Ce mot « acid » revient 26 fois dans le psautier et désigne les gens pieux, dévoués à l'Éternel, qui lui obéissent et qui l'aiment. C'est de ce mot que vient « acidisme », le courant religieux juif qui donne une interprétation mystique et allégorique de l'Ancien Testament. Je continue. Parmi les dieux, Seigneur, nul n'est semblable à toi. Aucun ne pourrait faire ce que toi, tu as fait. Et toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, ô Seigneur. Elles te rendront gloire, car tu es grand et tu fais des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Psaume 86, les versets 8 à 10. Les nations voisines d'Israël ont leur propre divinité dont elles vantent les exploits. Mais le jour viendra où tous les hommes reconnaîtront la souveraineté absolue de l'Éternel. Ici encore, cette vision de l'avenir correspond au règne de 1000 ans que Jésus-Christ instaurera sur terre. Dans le livre de l'Apocalypse, on lit « Qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire ? Car toi seul, tu es saint. » Et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi. Apocalypse 15, verset 4. Je continue le psaume 86. De tout mon cœur, je te louerai, Seigneur mon Dieu. Je te rendrai gloire à toujours, car ton amour pour moi est grand, et tu m'as délivré du gouffre de la mort. Ô Dieu, des orgueilleux se dressent contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Il n'y a pas de place pour toi dans leurs pensées. Psaume 86, les versets 12 à 14. Ces paroles rappellent beaucoup celles du psaume 54 que David a formulé alors qu'il est poursuivi par le roi Saül. Je finis le psaume 86. Même toi, Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse, qui nous fait grâce et qui est lent à la colère, qui est riche en amour et en fidélité. Accorde-moi un signe de ta bonté. Psaume 86, les versets 15 à 17. J'aime beaucoup la prière de Néhémie, chapitre 5, verset 19, chapitre 13, verset 31, qui, s'appuyant sur le caractère de Dieu, demande « Souviens-toi de moi, ô Dieu, pour me faire du bien !» Nous arrivons au psaume 87, qui fait partie des cantiques de Sion, le mont sur lequel est bâti Jérusalem. L'espérance du royaume messianique, développée dans le psaume 85, est rappelée dans le 86, est omniprésent dans le psaume 87. Un cantique qui porte l'esprit prophétique au plus haut niveau, car il est très précis dans ses prédictions. Il célèbre la gloire future de Jérusalem et annonce que les nations païennes sont appelées à recevoir le droit de cité dans la ville sainte, et c'est l'Éternel lui-même qui les inscrit dans le registre de ses sujets. En fait, cette prophétie qui donne à tous les hommes, quels qu'ils soient, la possibilité de faire partie du peuple de Dieu s'accomplit actuellement, puisque depuis la Pentecôte, des gens de toutes les nations naissent à une vie nouvelle dans l'Église de Jésus-Christ. Je commence à lire le psaume 87, psaume des fils de Corée. Cantique. Dieu l'a fondé sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de David, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Pause. Psaume 87, les versets 1 à 3. Jérusalem est synonyme de gloire et de sainteté parce que l'Éternel a choisi cette ville pour y faire résider son nom. Un jour, elle sera la capitale du monde entier. Ésaïe écrit, dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et toutes les nations y afflueront. Ésaïe chapitre 2, verset 2. Je continue le psaume 87. Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de l'Égypte, Rab, aussi bien que Babylone. J'inscris la Philistie et Tyr et l'Éthiopie comme étant né ici. De Sion, on dira, tout homme est né ici et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. Psaume 87, 4 à 5. L'Éthiopie correspond au sud de l'Égypte, plus le Soudan et l'Éthiopie actuelle. Dieu donne à chaque peuple le droit de cité en Israël afin que le statut de citoyen de Jérusalem comme s'il y était né. Une ère nouvelle, comparable à une nouvelle naissance, débutera quand l'humanité se convertira à Jésus-Christ. Le psalmiste a une vision du millénium où tous les peuples sont incorporés à celui de Dieu. Soit dit en passant, que le premier nom juif mentionné dans le Nouveau Testament à devenir chrétien fut un ministre d'État éthiopien. Actes chapitre 8, les versets 26 à 39. Je finis le psaume 87. L'Éternel, en faisant la liste où il inscrit les peuples, note pour chacun d'eux, un tel est né ici. Pause. Et ils diront dans leur chant et leur danse, toutes mes sources sont en toi. Psaume 87, les versets 6 et 7. Littéralement, en chantant comme dansant, toutes mes sources sont en toi. On chante et on danse. Il s'agit de cortèges religieux et des danses semblables à celles de David devant l'Arche de l'Alliance, dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 16. Dans sa grâce souveraine, Dieu lui-même enregistre les nouveaux membres de son peuple. Et Jérusalem sera, pour toutes les nations, la source de la vie et de la prospérité. Nous arrivons au psaume 88, qui rappelle le livre de Job, car c'est la prière d'un désespéré qui est au fond du trou, sans le moindre espoir d'en sortir. Assez curieusement, il est en sandwich entre deux psaumes, où domine la louange et la joie. Je commence à lire le psaume 88. Un psaume des fils de Corée, cantique à chanter avec la flûte, au chef des chœurs. Une méditation d'Éman l'Ezraïte. Éternel Dieu de mon salut, je crie à toi pendant le jour, pendant la nuit, en ta présence. Psaume 88, les versets 1 et 2. Ce Lévite était chantre au temps de David. Un chronique, chapitre 25. Et l'un des sages à la cour de Salomon. C'est un homme pieux qui appelle Dieu à l'aide suite à une grande détresse. Je continue. Que ma prière s'élève jusqu'à toi, à mes sanglots, prête attention, car je suis rassasié de maux, et je suis tout près du séjour des morts. Déjà, je suis compté parmi ceux qui s'en vont dans la fosse. Je suis un homme fini, gisant parmi les morts, pareil aux tués qui sont couchés dans la tombe, que tu as oublié et dont tu ne t'occupes plus. Psaume 88, les versets 3 à 6. Les défunts ne participent évidemment plus à l'histoire humaine et ne bénéficient plus des interventions de Dieu en leur faveur. Ce psaume nous donne une idée de la manière dont les Israélites se représentaient la mort, un état d'impuissance totale et abandonné de Dieu dans les ténèbres les plus opaques. Et c'est effectivement une description de l'endroit où se trouve le mauvais riche de la parabole de Jésus, dans Luc 16. Pourtant, d'autres psaumes, le psaume 16, 17, 49, 73, enseignent que même dans le Séol, le fidèle est gardé par Dieu et qu'il en sortira pour être reçu dans la gloire. Mais ici, cette espérance fait totalement défaut parce que le psalmiste est complètement désespéré. Sa détresse présente est si forte qu'il la compare à la mort dans ce qu'elle a de plus effrayant. Je continue. « Tu m'as abandonné dans un gouffre sans fond et tu m'as relégué dans les fonds ténébreux. Ta fureur me tenaille, les flots de ta colère ont déferlé sur moi. » Pause. « Tu m'as séparé de mes proches, tu m'as rendu pour eux comme un objet d'horreur. » Comparez Job, chapitre 19, les versets 13 à 19. « Je suis emprisonné, je ne peux m'en sortir. Mes yeux sont épuisés à force de souffrir. Je t'invoque, Éternel, tout au long de mes jours, je tends les mains vers toi. » Psaume 88, les versets 7 à 10. Le psalmiste ne confesse aucune faute, mais il se dit frappé par Dieu, ce qui accentue encore son désespoir. Pourtant, il montre sa foi et sa patience dans son intercession passionnée. Je continue plus loin et finis ce psaume. Pourquoi, ô Éternel, me rejeter et refuser de m'accueillir? Car je suis malheureux, près de la mort, depuis que je suis jeune, et jusqu'à maintenant, j'endure les terreurs que tu m'imposes. Je suis à bout. Les flots de ta colère ont déferlé sur moi. Je suis anéanti par les angoisses qui me viennent de toi. Comme des eaux qui me submergent, de toutes parts, elles m'assaillent tous les jours. Mes familiers, tous mes amis, tu les as éloignés. Ma seule compagnie, ce sont les ténèbres. Psaume 88, les versets 15 à 19. Contrairement aux autres psaumes d'appel au secours, le psaume 88 ne finit pas en triomphe, mais par l'expression d'une nouvelle détresse épouvantable introduite par « pourquoi ?». On peut se demander comment une complainte pareille peut se trouver dans le recueil des hymnes sacrés d'Israël. Il faut bien reconnaître que de telles épreuves sans raison apparente, sont parfois le lot de certains croyants d'élite. Ce fut le cas de Job, et surtout de Jésus-Christ sur la croix quand il a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le psalmiste ne met pas un instant en doute l'existence ou la justice de Dieu. Il souffre, pleure et se lamente, mais sans orgueil et sans révolte. Et malgré le silence de Dieu, il n'en continue pas moins de lui parler et de crier à lui. C'est pourquoi cet appel au secours est un exemple et un soutien, et même un encouragement pour tout croyant qui serait dans une très grande détresse.